01 45 24 7000 avec Stéphane d'abord qui nous appelle de Poitiers. Bonjour Stéphane.
Bonjour, oui monsieur Cohen, triste que vous partez de France Inter déjà. Je salue le...
C'est
le
pas encore.
Ah d'accord, désolé. Et je salue le président du Sénat. Bonjour.
Bonjour.
Ma question est simple. Pensez-vous que l'unité de la droite que vous défendez pour une opposition ou une future cohabitation est garantie vu la fracturation de la droite? Moi, je vois aucun rapport entre vous et des gens comme M. Wauquiez, Mme Morano ou M. Ciotti, quoi. À mon avis, il y a deux droites et vous avez tout intérêt, à mon humble avis, bien sûr, à cohabiter avec et même à participer à ce nouvel élan pour la France, quoi.
Merci Stéphane. Gérard Larcher.
D'abord, les Républicains, c'est l'enfant de l'UMP. L'UMP, c'est un rassemblement de centristes, de chrétiens-démocrates, de radicaux, de gaullistes, d'une droite libérale, d'une droite souverainiste. Et c'est vrai que il y a des sensibilités. C'est aussi une richesse dans un mouvement politique. Simplement, nous n'avons pas, depuis un certain nombre d'années, vraiment réfléchi pourquoi nous sommes ensemble, quelles sont nos divergences, quelles sont nos différences et qu'est-ce qui nous rassemble vraiment. C'est ce à quoi nous devons nous astreindre. Et si nous voyons que nous ne pouvons pas continuer à vivre ensemble, ben on en tirera les conséquences. Ça n'empêche pas d'être dans le partenariat sur tel ou tel projet. Moi, j'avais envie de dire la chose suivante. Il y a un certain nombre de pays, on parle de coalition, de cohabitation. Pourquoi pas imaginer de se mettre d'accord sur un certain nombre de projets? Et sur ces projets, d'en déterminer l'agenda. Est-ce que ça veut dire pour autant faire disparaître une partie de nos différences? Est-ce que ça veut dire pour autant se rallier? Ça veut dire travailler ensemble pour le bien du pays. C'est aussi ma vision des choses.
Mais on comprend ce que vous pouvez avoir à faire avec Emmanuel Macron, vous le dites depuis ce matin, depuis tout à l'heure. On comprend pas, en tout cas cet auditeur ne comprend pas ce que vous avez encore à faire avec Laurent Wauquiez, Éric Ciotti. Est-ce qu'il ne faut pas un congrès? Est-ce qu'on n'est pas dans une période de clarification en ce moment? À gauche, ça se passe avec la France insoumise, avec les socialistes qui sont maintenant divorcés, avec En Marche au centre. Et on a l'impression qu'à droite, ça ne se passe pas encore.
D'abord, sur la question régalienne, je me sens plus proche parfois de M. Wauquiez. Je vais prendre l'exemple de la justice. Je crois qu'il y a la nécessité à la fois de la rénover, mais en même temps d'assurer l'exécution des peines, d'envoyer des signaux extrêmement clairs. Donc, ça n'est pas si simple que cela. Le temps est à la mobilisation politique, à la rencontre avec les citoyens au travers des élections. Mais naturellement, nous allons devoir, je le disais tout à l'heure, nous poser la question quelles sont les valeurs qui sont les nôtres dans le cadre de la préparation du congrès qui est prévu dans nos statuts et qui aura lieu à l'automne. Mais c'est un sujet qui mérite un peu de temps. Nous avons eu la tête dans le guidon. D'abord, souvenez-vous que nous avons connu un conflit de présidence. C'était en 2012. Nous avons préparé les primaires et pendant ce temps-là, sans doute, nous n'avons pas suffisamment travaillé parce que un parti politique, c'est aussi un espèce de corps de doctrine, de réflexion, qui n'est pas une doctrine unique, mais qui justifie le fait que nous avons un projet que nous portons collectivement et que nous proposons au pays.
Je note que vous avez évoqué, en tout cas vous n'avez pas exclu l'idée d'un divorce ou d'une séparation si nous n'arrivons pas à vivre ensemble, avez-vous dit Gérard Larcher.
Je souhaite vraiment l'unité. C'est l'intérêt de la France, c'est pas simplement l'intérêt du parti politique. Je crois que, regardez ce qui se passe au Parti Socialiste, je crois vraiment qu'on a une responsabilité dans une démocratie d'avoir le pilier majoritaire et le pilier d'une opposition qui partage les valeurs de la démocratie, qui partage les valeurs fondamentales de la République.
Débat que voulait prolonger un autre auditeur, Alain, qui nous appelle de Paris. Bonjour Alain.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Les constats qui ont été faits par M. Fillon et M. Macron sont très similaires. D'ailleurs, M. Fillon l'a reconnu. Les mesures de correction sont à peu près les mêmes avec des petites différences. Pourquoi vouloir absolument garder les concepts de bloc majoritaire alors que la France a vraiment besoin de réformes? Et moi, j'aimerais que les partis républicains privilégient la France plutôt qu'un parti qui n'a plus d'avenir.
Merci Alain.
Je ne sais pas si les partis n'ont plus d'avenir. Je crois au contraire qu'ils sont nécessaires. C'est d'ailleurs un des rares éléments qui reconnaît dans la Constitution les partis politiques comme un porteur de l'exercice de la démocratie. Donc je crois que...
Non mais là c'est plutôt la question des blocs majoritaires, donc le fait majoritaire. Est-ce que, par exemple, pour prolonger la question de notre auditeur, et pour qu'on aille peut-être vers des compromis que vous avez l'air de souhaiter, il faudrait mieux pas avoir une... Non pas le système majoritaire, mais le système proportionnel?
D'abord, le fait majoritaire, c'est le résultat de l'élection législative. Ça n'est pas le mode de scrutin. Nous pouvons avoir des majorités relatives à l'issue d'un scrutin qui se fait au scrutin majoritaire. Le président de la République a dit qu'il souhaitait une part de proportionnel. Vous savez, moi, je crois au scrutin majoritaire parce qu'il y a une relation personnelle entre un élu et les citoyens d'un territoire défini. Une circonscription, ça a du sens. Un homme ou une femme...
Normalement, un député, c'est un député de la nation.
C'est un député et un sénateur de la nation. Il n'empêche que, comme sénateur, je représente...
Le sénateur, c'est autre chose. Vous représentez les territoires. Mais le territoire, les députés sont censés...
Et le député, il est de la nation. Mais en même temps, le député, par exemple, de Versailles, il représente un territoire. Et dans ce territoire... Il a une relation avec les citoyens, il a une relation avec la vie associative et les élus qui lui permet de porter les préoccupations des gens. Il n'est pas qu'une machine à adhérer à une majorité ou à une opposition. Il est aussi le représentant des attentes de la vie quotidienne. Ce qui manque beaucoup aujourd'hui, pourquoi je souhaite tellement réconcilier le Parlement et les citoyens, c'est que les citoyens ont le sentiment que la vie politique, mais aussi la vie parlementaire, mais aussi la vie gouvernementale, est très loin d'eux. Et rétablir la proximité, c'est quelque chose d'essentiel. Vous allez éloigner cette proximité dans un scrutin strictement proportionnel, sur un territoire qui ne sera pas clairement défini. Il ne faut pas se tromper. Seuls les maires adjoints, les conseillers municipaux, ont la confiance majoritaire des Français. Pourquoi ? J'ai une formule que beaucoup de maires en France connaissent, parce qu'ils sont à portée d'engueulade. Donc ils sont à portée de contact avec les citoyens.
Un certain nombre d'auditeurs rebondissent sur la dernière partie de l'entretien de 8h20, sur ce qu'on a dit à propos de François Baroin et de ses arguments de meeting ou de campagne. Marie de Rambouillet, je suis choqué par ce que Monsieur Larcher a dit sur François Baroin. Claude de Jacquie de Versailles, vous voyez, c'est chez vous tout ça, Gérard Larcher. Je suis étonné qu'il ait évité la question qu'on lui a posé sur Baroin. Il aurait dû dire que Baroin avait tort. Je ne comprends pas sa réaction, ça me surprend. Voilà, je vous transmets tout ça, Gérard Larcher.
Moi, je suis aux côtés de François Baroin. Je pense que ce qu'il conduit, avec l'ensemble de nos candidats, avec notre famille politique, c'est un homme de proximité. C'est pas par hasard s'il est le président des maires de France. Mais, par exemple, sur cette affaire de loyer, entre quelque sorte... fictif, on va le dire, pour les propriétaires. C'est un sujet qui a été écrit par M. Pisani-Ferry. J'ai entendu le président de la République le démentir. Je vois pas pourquoi je dirais autrement. Je suis à la fois fidèle et engagé auprès de François Baroin, mais je suis aussi un homme libre.
Bon, donc il... Voilà. Clairement qu'il a eu tort il a tort d'en faire un argument de campagne.
On n'arrivera pas à lui faire dire. Bon. Est-ce que vous pouvez dire cette phrase-là ou pas, non? Juste pour voir.
C'est pas le sujet. Essaye d'opposer les uns aux autres? François Baroin, c'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'engagement, et notamment autour des valeurs de la République.
Alors la question,
On le reçoit bientôt. Je vous offre une autre réflexion d'auditeur. Gabriel de Rodemack, les Français en ont assez de ces mélanges de politique politicienne et de langue de bois. Cela nourrit les votes Le Pen et Mélenchon.
Quelle langue de bois? Au contraire, je viens de vous dire que je pouvais avoir un point de désaccord avec quelqu'un dont je me sens proche. Ah, voilà. Alors si c'est ça la langue de bois, pas ce que c'est. Vous savez, la langue de bois, chez un vétérinaire, c'est une pathologie liée aux champignons. Donc je ne pense pas l'avoir.
Y a-t-il une interview récente que vous ayez fait, Gérard Larcher, que vous ayez donné sans que vous ayez le rappel de votre ancien métier, de votre ancienne profession?
C'est assez rare, je reconnais. Voilà. Ça veut dire que je suis attaché à cette profession, pas simplement parce qu'elle représente, parce que c'est une manière de raisonner à partir du diagnostic pour proposer un traitement. C'est peut-être ce que les Français attendent des politiques.
le traitement en matière de parlementaire. Alors, on revient. Vous avez rencontré hier le Premier ministre Édouard Philippe pour évoquer notamment le calendrier parlementaire de cette prochaine semaine. Le Parlement devrait être amené à légiférer tout l'été, Gérard Larcher.
Tous les cas, le mois de juillet et une partie du mois d'août, autour notamment... si le président de la République et le Premier ministre en décident ainsi d'une ordonnance autour des thèmes du travail et de l'emploi. Bien sûr, autour de l'urgence, nous avons, avant le 15 juillet, à reprendre un texte pour continuer ou non l'état d'urgence.
Et puis, il y a la loi de moralisation
et il y a la
de
loi
la vie politique.
Que, je n'aime pas ce mot-là, je pense la loi de confiance, je reprends le mot. Parce que face à moralisation, il y aurait le côté immoral ou amoral. Je pense que ce qui compte, c'est de contribuer à retrouver cette confiance entre les citoyens et celles et ceux qui ont la charge de les gouverner, de les représenter. Car ce texte, il concerne tout autant les parlementaires
et pour ce que vous en savez
et les membres du gouvernement.
Pour ce que vous en savez de ce texte, est-ce que vous êtes prêt à le voter ? Vous n'avez pas voté le dernier ?
D'abord, au Sénat, nous nous sommes engagés depuis longtemps dans cette démarche de confiance, dans cette démarche de transparence. Et il faut reconnaître aussi que sous le quinquennat de François Hollande, notamment au travers de la Haute Autorité, un certain nombre de choses ont été faites. Je pense notamment au sujet de la suppression de toute activité de conseil. J'y suis depuis longtemps extrêmement favorable. D'autant plus qu'à partir du 1er octobre 2017, l'ensemble des régimes des incompatibilités entre la fonction parlementaire et un certain nombre de fonctions publiques ou privées, on ne pourra plus, par exemple, présider ou vice-présider un établissement public ou être dans un, avoir des responsabilités de présidence dans une holding. Tout ceci me paraît normal et légitime.
Vous êtes bien parti pour voter la loi Bayrou ?
Ça dépend ce qu'il y aura dedans. Naturellement, sur la question de la fiscalisation des indemnités
de frais
parlementaires.
Mandat.
Non, parlementaires.
Parlementaires.
On y met tout. C'est un sujet sur lequel nous travaillons depuis 2 ans au Sénat, sur lequel nous ferons des propositions. Et ces propositions, elles sont les propositions du bureau du Sénat. Elles sont d'ailleurs transpolitiques. Parce que je crois qu'avec les Français, il faut qu'on se parle en vérité. Il est légitime qu'un parlementaire ou un membre du gouvernement reçoive une rémunération qui soit à la hauteur des responsabilités, mais en même temps, il faut qu'on sorte du sentiment qu'on en cacherait une partie, que les choses ne seraient pas claires. Je suis pour le retour de la confiance. Voilà pourquoi j'aborde ce dossier d'une manière à la fois ouverte et exigeante, à la condition qu'elle s'adresse à tous.
Vous restez avec nous, Gérard Larcher, parce que dans un instant, j'ai peur que Nicole Ferroni vous reparle du Sénat et de son fonctionnement.